Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédiable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Sirgue et Solène Figuès. Bonsoir.
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 Au sommaire de cette émission, de la Formule 1 avec le Grand Prix de Hongrie et de la natation avec les championnats du monde en grand bassin. Après une page de pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Grégory Sirgue, on va commencer par vous et la Formule 1. Le mano à mano continue entre Oscar Piastri et Lando Norris. Après la victoire de l'Australien en Belgique, c'est Lando Norris qui s'est imposé ce week-end à Budapest.
C'est ça, c'est un peu le chassé-croisé en tête des Grands Prix. Un Grand Prix pourtant qu'on leur donnait pas tout de suite, puisque à la surprise générale, on a Charles Leclerc qui a fait la pole position, même à sa surprise à lui, puisque c'est le seul à améliorer son temps dans la dernière, dans le dernier tour de la qualif. En plus, il prend un bon départ. Les pilotes McLaren se gênent lors du départ parce que Piastri vient un peu coincer Norris à l'intérieur, qui est obligé de laisser passer Russell et Alonso. Donc, il perd de place, se retrouve cinquième. Mais à la fin, c'est lui qui gagne par une stratégie qui a été plus payante. Stratégie à un seul arrêt. Pirelli recommandait une stratégie à deux arrêts. À savoir commencer, la plupart des pilotes ont fait ça, commencer en médium et ensuite faire deux changements pour mettre des hards qui sont censés durer plus longtemps. À ce petit jeu-là, c'est lui qui s'en est sorti puisqu'il a réussi à pousser ses médiums beaucoup plus longtemps que tous les autres avant de chausser les pneus durs. On a également Ferrari avec Charles Leclerc qui, malgré des arrêts qui ont été bien exécutés, à une performance qui a complètement chuté après son deuxième arrêt, alors qu'il aurait pu encore espérer la victoire. Au final, il a fini par se battre pour le podium et être doublé par Russell largement avant l'arrivée. Il a été doublé en plus par Russell et on a senti sa frustration de ne pas comprendre pourquoi la voiture ne fonctionnait plus. Et ça a conduit à une défense qui était plus que musclée sur Russell, donc il a vraiment bu... le cali jusqu'à la lie, comme on dit, puisque après l'arrivée, il a écopé en plus de 5 secondes de pénalité pour sa défense qui était trop rugueuse, justement.
Qui n'ont rien changé à sa quatrième position.
Qui n'a rien changé, donc vraiment, week-end très très difficile pour lui, mentalement. Il faudra qu'il discute ensuite avec l'équipe. Et concernant Norris et Piastri, si on en revient à eux, donc, week-end, Grand Prix d'une main de maître dans la gestion. Il y a juste eu un petit moment, 69e tour, donc l'avant-dernier. Piastri qui a été obligé de faire un blocage de roue et de piler, si on peut dire, pour éviter de rentrer dans son coéquipier. Est-ce que McLaren perd de tout ? Il a eu un petit rappel à l'ordre. Il a quand même essayé dans le dernier tour de repasser, mais il finit...
à moins d'une seconde. L'écart,
il finit à 7 dixième de son coéquipier, donc c'est vraiment dans un mouchoir de poche.
Norris est donc un peu l'homme en forme de ces dernières semaines, 5e victoire de la saison, 3e victoire lors des 4 derniers Grands Prix, donc, alors que Piastri avait une avance confortable à un moment.
C'est ça, il revient d'ailleurs au championnat pilote à 9 points. On le rappelle pour tous nos auditeurs, la victoire c'est 25 points, et l'écart de points entre le premier et le deuxième c'est 7 points, donc encore une fois premier, deuxième, il revient à 2 points et troisième fois, il passe devant. Donc ça se joue à rien. J'ai pas souvenir, sauf l'année où ça se joue lors du tout dernier Grand Prix entre Hamilton et Mercedes, mais j'ai pas souvenir d'un classement aussi serré à ce stade de la saison récemment.
Avec deux pilotes de la même écurie en plus.
Et surtout avec deux pilotes de la même écurie. Oui.
Donc vous l'avez dit, Leclerc très déçu, quatrième, qui malgré tout avait décroché la pole, qui était effectivement assez...
Même lui était surpris, puisqu'en fait il s'est retrouvé... On parle d'écart quand il y a une pole position. Là, l'écart, il est, pour mesurer, il est quand même de 26 millièmes. Donc, c'est rien du tout. Et en fait, ça s'est joué à quelques degrés de température de piste qui lui ont fait avoir la pole. Donc, assez inattendu. Et au final, pas le résultat escompté. Surtout que son coéquipier a fait un Grand Prix assez anecdotique où il finit à la 12e place. Donc, ce qui est ni durant... de Ferrari ni durant de Lewis Hamilton.
Alors Hamilton, justement, on va en parler en pleine dépression, tellement il a tenu des propos totalement inhabituels le concernant. Hein, samedi, à l'issue de la séance de qualif, il a quand même dit qu'il était totalement inutile.
Ah, c'est vraiment compliqué. Beaucoup des espoirs placés en lui lors de sa signature chez Ferrari et de l'engouement qu'il a suscité, on s'y retrouve pas, quoi. Il s'y retrouve peut-être en termes de marketing, mais en termes de performance, c'est pas le cas.
Ah là, ils sont très très loin de ce qu'ils attendaient. En revanche, ceux qui ont fait un bon week-end, c'est Aston Martin, avec Alonso 5e et Stroll 7e.
C'est ça, et dès la qualif, on avait Alonso en 5e et Lance Stroll en 6e. Stroll qui est très souvent moqué pour ses performances, on va dire, en dents de scie, pour rester correct. Mais non, plutôt un très bon Grand Prix pour eux. Même ils se sont bien battus, ils ont bien défendu leur place. Et Alonso était un peu la locomotive du train du reste des pilotes sur le Grand Prix. Donc c'était vraiment intéressant. Et entre les deux s'intercale Bortoleto de Kik Sauber, qui est un rookie et qui du coup fait une bonne place, qui encore une fois score des points pour la deuxième fois d'affilée. Et qui, rappelons-le, est managé par Alonso, qui était juste devant lui, donc c'est toujours rigolo un peu.
En tout cas, bonne opération pour Aston Martin au niveau du championnat constructeur, hein, puisqu'ils prennent quand même un peu de points et se replacent un petit peu aussi. S'éloignent de ceux qui les menaçaient un petit peu.
C'est ça, ça leur permet de revenir à la sixième place, un point devant Kik Sauber, dont on vient de parler. Ils restent quand même un petit peu plus loin de Williams à 18 points. Bon, eux. Clairement, ils n'ont plus d'espoir de jouer le titre, mais c'est toujours mieux de bien figurer au classement, puisque derrière, c'est du budget en plus pour la saison suivante.
Exactement. Ça fait quelques minutes qu'on parle de Formule 1 et on n'a pas prononcé le nom de Max Verstappen, ce qui est assez étonnant et inhabituel aussi. Verstappen, 9e sur ce Grand Prix.
C'est ça, 9e au Grand Prix, 8e en qualif. Ça n'a pas très bien marché, quand même. C'était un week-end pourtant où il aurait pu célébrer sa prolongation de contrat.
C'est ça, dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant.
Dont on parle depuis plusieurs semaines, il y avait des rumeurs assez improbables l'envoyant chez Mercedes. Mais le départ de Christian Horner n'est peut-être pas étranger à sa prolongation puisqu'il y avait un peu de friture sur la ligne entre eux. Maintenant, la voiture n'est pas si performante que ça. On rappelle qu'elle est réglée vraiment pour lui, donc c'est pour ça qu'on parle même pas des performances de Tsunoda qui...
Des non-performances de
Tsunoda. Des non-performances. Et pour vraiment enfoncer le clou, c'est quand même Liam Lawson qui est juste devant lui, qui était sans coéquipier en début de saison, qui a été viré et qui est passé dans l'écurie sœur Racing Bulls et qui finit mieux que lui. Donc c'est quand même compliqué. Et Hadjar qui finit lui aussi devant Tsunoda. Donc les deux Racing Bulls qui se battent devant Red Bull, ouais, qui sont, voilà, qui est l'écurie Rennes.
On va parler des Français, justement, vous l'avez dit, Hadjar 11e, Ocon 16e, Gasly 19e, un Grand Prix un peu à oublier pour les Français. Hein.
Bah, aucun point marqué. La réalité, elle est là. Hein. Comme le classement, c'est purement mathématique, donc pas de points marqués. Et Gasly qui est sauvé de la 20e place uniquement parce qu'il y a un abandon, sinon il finissait dernier.
Comme sur le Grand Prix de Belgique la semaine dernière.
C'est ça.
On a passé la mi-saison, on vient de disputer le 14e des 24 Grands Prix de ce championnat du monde. Quel bilan vous pouvez nous faire, Grégory Sirk, de cette première moitié de saison? Sachant qu'on a un mois de pause, là, 4 semaines de pause avant le prochain Grand Prix à Zandvoort aux Pays-Bas le 31 août.
Le premier bilan, c'est la confirmation de la saison dernière avec la suprématie des McLaren. Ils savent vraiment exploiter au maximum la réglementation en cours. Rappelons que la réglementation va changer l'année prochaine, ce qui peut expliquer que des écuries ne poursuivent pas le développement de leur voiture actuelle pour tout miser sur l'année prochaine.
Ce qui peut expliquer certaines non-performances aussi.
C'est
de,
ça.
De
puisque
top,
tout,
des
tout va changer tant la partie châssis qu'aérodynamisme que moteur, donc il y a vraiment un changement total de réglementation. On a l'an dernier les Aston Martin qui avaient fait illusion, puisque longtemps on parlait d'Alonso comme potentiel prétendant au titre. Bon, là cette année ils sont quand même beaucoup plus rentrés dans le rang. Et après, on a les bonnes surprises venant des rookies, notamment Bortoleto dont on parlait juste avant, et Antonelli qui, même s'il ne score pas à chaque Grand Prix, a de place de gros espoirs quand même, puisqu'il a la vitesse. Et surtout, la Red Bull qui, l'année dernière, a fait deuxième, mais avec Verstappen qui a été champion. Et là, cette année, on sent que... c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Quoi.
Comment vous voyez la deuxième partie de saison où on va finir les Grands Prix en Europe, basculer sur les États, enfin, le continent américain, puis ensuite Abu Dhabi et Doha?
Bah, je vais maintenir mon pronostic de début de saison avec Norris et McLaren champion. Je pense qu'il n'y aura pas trop de changements. Hein. Ça va... Le classement actuel qu'on a, donc avec McLaren, Ferrari, Mercedes et Red Bull, à mon sens, va rester identique. Peut-être Mercedes va monter avant Ferrari, puisque Ferrari ne peut se reposer que sur Leclerc, alors que le tandem Russell-Antonelli me paraît un peu plus équilibré.
Et plus Mercedes. Homogène, effectivement.
Mais sinon, McLaren va rester en tête. Ils ont quand même, excusez du peu, quasiment 300 points d'avance sur Ferrari. Donc oui, pour moi, c'est joué.
Le championnat constructeur est joué, mais depuis longtemps, je pense.
C'est ça.
Et bien, si on récapitule un peu en termes de chiffres, donc au championnat du monde des pilotes, Piastri a donc 284 points avec ses 6 victoires, Norris 275 points avec 5 victoires, et derrière Verstappen est presque à 100 points d'Oscar Piastri, hein, 97 points. Russell est 4e, Leclerc 5e, il y a aussi là un petit trou avant Hamilton. Donc effectivement, et on a que 4 vainqueurs de Grand Prix sur cette saison. Donc oui. 14 Grands Prix à répartir entre 4 pilotes, sachant que les deux pilotes McLaren, en ont déjà pris 11.
Oui, bah ils sont injouables. Hein. La voiture est parfaite, ils arrivent à l'exploiter. Les deux pilotes, pour l'instant, à part c'était le Grand Prix du Canada, si je me souviens bien, où leur petite lutte a fini par envoyer Norris dans le mur. Sinon, Norris, au final, serait premier au championnat constructeur. Mais à part ça, les consignes d'équipe sont de jouer la gagne sans se toucher, et pour l'instant ça fonctionne, donc je vois pas qui peut les arrêter.
À part eux-mêmes, parce que plus on va avancer dans le
ah bah la pression va monter puisque donc, les deux joueront pour leur premier titre individuel, donc forcément à la fin ça peut faire des étincelles.
Je pense qu'il n'y aura plus de consignes à la fin ou qu'elles ne seront pas forcément respectées en tous les cas.
Ça va être plus compliqué.
Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On va vous laisser, Grégory Cirque, vous aussi vous reposer pendant 4 semaines de cette partie de Formule 1. Solène Figuès, on va passer à la natation avec vous, avec ces championnats du monde en grand bassin qui se sont terminés hier à Singapour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que côté français et calédonien, parce qu'on va faire un cagou-rico en même temps, ces championnats ont été exceptionnels. 8 médailles pour la délégation française, 4 en or, 2 pour Marchand, 2 pour Maxime Grousset, 1 en argent sur le relais 4x104 nages et 3 en bronze avec Hendrik Brouard sur 100 mètres et 200 mètres d'eau et le relais 4x100 mixte dans lequel il y avait aussi Maxime Grousset. Allez, on commence par Maxime.
3 médailles pour Maxime, dont 2 d'or. 4. C'est assez.
Il est dans les deux relais. Hein.
Assez génial. Là, il doit être sur une étoile parce qu'il fait des performances extraordinaires. Et c'est un pur bonheur. En plus, il va se préparer aussi pour les Jeux Olympiques sur le 50 papes qui risque d'y être. Et là, il était d'une puissance et d'une force exceptionnelle.
Donc, on ne l'a pas dit, mais il a gagné. Il est champion du monde du 50 mètres papillon et du 100 mètres papillon.
En individuel, ouais.
Grosse performance. Vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir au téléphone à tout hasard?
Non, je l'ai suivi, j'ai regardé ses courses et il a été très puissant.
Il a effectivement survolé ces deux courses. On l'a trouvé presque plus étoffé physiquement qu'il ne l'était il y a un an à Paris. Quand on le voit sortir de l'eau, on prend un petit peu de recul, on se dit ouais, il a encore fait beaucoup de muscu, non, il y a eu un travail musculaire important. Enfin, il donne l'impression d'être vachement beaucoup plus planté qu'il y a un an.
Ah, j'ai pas remarqué. Là. Souvent, ça dépend aussi de la caméra. Hein, quand on voit pas en vrai, on se rend pas bien compte. Non, moi, je l'ai pas vu en direct, mais c'est vrai que quand il lève les bras et quand on voit son V magnifique. Il est en forme, il est puissant et en papillon, ça tombe bien parce que c'est la puissance qu'il faut.
En tout cas, il semble avoir digéré ces pseudo contre-performances de Paris il y a un an où il avait aussi été un peu forcément derrière.
On est déçu,
Léo Marchand qui avait été stratosphérique. Mais on attendait un tout petit peu mieux de Maxime l'année dernière. Là, il a remis les pendules à l'heure.
Il a remis les pendules à l'heure. Le plus difficile l'année post-olympique, c'est de se remettre dedans. Et je pense qu'il a trouvé un bon équilibre. Il sait pourquoi il s'entraîne. Je pense qu'il a les Jeux de Los Angeles dans le viseur. Et il met en place les choses pour être au top. Et c'est vraiment bien, parce que c'est une sacrée force de caractère, hein, de se remettre après les Jeux. En général, l'année après, on a envie de passer à autre chose parce qu'on est très focus. Et quand on sort d'une déception sportive, même si les Jeux étaient magnifiques, on a parfois envie de faire une pause. Et là, Maxime, ben non, il est dedans. Il a été très, très bon. Et moi, j'avais vu ses parents qui m'avaient dit non, il s'y remet, il est à fond et on y croit.
Bon, eh ben, ils avaient bien fait d'y croire, puisque les résultats leur donnent raison. On va parler aussi de Léon Marchand, qui forcément maintenant est attendu sur chacune de ses courses, hein, et qui va chercher 2 titres mondiaux lui aussi.
En pulvérisant le record du monde. Hein,
exactement, un record du monde stratosphérique, plus d'une seconde et demie.
Ouais, c'est ça. Il a de 1,54, ça descend à 1,52. En plus, même lui était étonné. On voit avec ses yeux, c'est quand même. On a envie de faire 1:53, mais là, quand on est en 1,52, c'est. Je me souviens son père, parce que moi, je suis de l'époque, je m'entraînais avec son père. À l'époque, il était vice-champion du monde en 2:01. 9 secondes en 20 ans. Et là, il est heureux. Il a été très, très fort.
Il rebat l'ancienne marque, parce que en finale, en 1:53, il est quand même bien dans ses marques sur le c'était sur le 200, cette performance sur le 200 pape, hein, il est extraordinaire.
200 mètres 4
4 nages, pardon. Oui.
200 mètres 4 nages.
On l'attend, il est là, ce qui est quand même toujours appréciable. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'à votre avis, ça va durer?
Non, moi, je connais très bien ses parents, parce que je suis la génération de ses parents. Son père était un homme musclé, fort mentalement et puissant. Sa mère a arrêté très tôt. Elle a fait les premiers Jeux Olympiques à 14 ou 16 ans, Céline. Et elle a glissé dans l'eau. Et Léon, il a la glisse de sa mère, la puissance de son père. Et il est en éternelle progression. Donc, en plus, il a l'air d'avoir un mental incroyable. Moi, je lui souhaite de continuer sur cette dynamique.
Bon, on va de toute façon continuer à les suivre, et on espère qu'effectivement tous les deux, Maxime comme Léon Marchand, seront là, bien évidemment, à Los Angeles pour les Jeux dans 3 ans maintenant. Quel bilan on peut tirer de ces championnats du monde avec ces 8 médailles de la délégation française?
C'est un des meilleurs championnats du monde. La France est 3e en natation, ce qui est quand même assez incroyable. Après, quand c'est natation tout confondu avec le plongeon et les autres sports, la synchro et le water polo, je crois qu'ils sont 5e. Et c'est une très, très belle performance.
Alors, par contre, on a été habitué à mieux, la natation féminine. Vous êtes bien placé, je pense, pour nous en parler. Que se passe-t-il? On n'a pas vu de filles, hormis dans le relais qui prend la médaille de bronze. On n'a pas de filles en individuel.
Ouais,
elles
n'ont pas été titrées. Il y a quand même eu plusieurs finales. Hein. On a la nageuse de 1500 qui est arrivée 5e. Ensuite, on a Marie-Ambre Molou qui est arrivée 8e du 100 dos. Pauline Mailleux, 6e du 100 dos. On a Irinée qui est arrivée aussi 6e du 52, je crois, et Anastasia Kirpichnikova, 5e du 1500. Elles ne sont pas sur les podiums, elles sont en finale. Finales. Ensuite, on a quand même 2 filles hein, médaillées au relais mixte. Marie Vatel, elle sort d'une blessure au genou. Donc, c'est vrai que les filles étaient moins présentes, mais on sent quand même le vivier. Elles sont en train d'acquérir de l'expérience. Et voilà, les garçons ont été puissants, forts et présents. Et les filles, ça sera les années prochaines.
Si on occulte les performances de nos Français, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces championnats du monde des nageurs des autres nations?
Ah, ça a nagé très très vite. Hein. Ça a nagé très vite.
Est-ce que Singapour était un bassin rapide, comme on tend à les appeler, puisqu'on a compris qu'il y avait des bassins plus favorables aux performances que d'autres?
Maintenant, ils font quand même des bassins, ils sont en train de tous les paramétrer. C'est des bassins qu'ils construisent avec la profondeur optimale. Et ils ont nagé très très vite, notamment en relais, même les équipes de France. Hein, elles ont battu les records de France. Même les filles ont fait 6e au 4x100 crawl. Elles ont été très vite et... L'international a été plus vite que nos Françaises, mais c'est un bassin rapide.
Est-ce qu'on a des grandes... Oui, Grégory, vous voulez...
J'ai juste une question en tant qu'habitué de la natation. Comme on parle des étrangers, qu'est-ce que vous pensez de la performance de la jeune chinoise qui n'a même pas 13 ans
et 12,
qui est au championnat du monde? Qu'est-ce que...
Alors, en natation, chez les filles, il y en a beaucoup qui sont précoces très tôt. Il y a souvent des championnes olympiques à 14 ans. Juste au niveau de l'adolescence, elles ont une glisse exceptionnelle. 12 ans, c'est un peu tôt. On est plus habitué à 14 ans, donc... c'est surprenant. Ensuite, on va voir ce qui va se passer. Mais on a eu une Franziska van Amslick, on a eu des championnes allemandes, des championnes américaines à 14 ans, très, très, très fortes, très puissantes. Et ensuite, quand passe l'adolescence, il peut y avoir un creux de 2 ans, 3 ans, parce qu'on a une flottabilité entre 12 et 15 ans. Et on n'a pas encore la puissance, mais on a cette glisse et cet hydrodynamisme incroyable. Après, c'est une Chinoise, elle est quand même bien formée. Elle a toujours certains doutes, mais laissons place à l'espoir, à la puissance. Et quand on voit, je pense à Léon Marchand, qui est fort, puissant et qui glisse, moi, je crois beaucoup en l'humanité et certains des individus sont exceptionnels et très forts physiquement.
Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre, puis si on se projette un petit peu, alors c'est loin, c'est dans 3 ans, il peut se passer tellement, tellement de choses, mais si on essaye de se projeter un petit peu à l'horizon de 3 ans et donc des Jeux de Los Angeles, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos athlètes et de nos nageurs et nageuses ? Français, bien sûr.
Ouais, c'est dans longtemps, c'est toujours dur parce qu'une carrière de sportif, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés, il y a des blessures, il y a des fois des surentraînements parce qu'en natation, on nage 20-25 heures semaine hein, et des fois, à force d'entraînement, on s'entraîne un peu trop et on peut faire du surentraînement comme un burn-out. Donc, moi, je préfère avancer, évidemment. Hein, je souhaite le meilleur avec la force et les qualités qu'ils ont, ça fait rêver. Mais 3 ans, c'est long. Il faut s'entraîner,
ça il n'y a pas de secret. On a un autre Français qui a performé, dont on parle un peu moins depuis quelques années, c'est Philippe Lucas, entraîneur d'un nageur tunisien dont j'ai malheureusement oublié le nom, vainqueur sur le 800 et le 1500 nage libre. Donc la méthode Lucas, elle marche quand même toujours.
Ouais, Philippe Lucas, il a un entraînement et il manage ses nageurs d'une manière qu'il arrive à les pousser au meilleur d'eux-mêmes. Donc jusqu'à maintenant, il a beaucoup performé avec les femmes. Et là, il a aussi des hommes et des garçons qui sont à ses côtés. Et là, en effet, son nageur a brillé.
Bon, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas faire revenir Philippe Lucas pour réentraîner des filles, par exemple ?
Je sais pas. Moi, j'ai nagé hein, avec Philippe Lucas. Il a toujours dit, Solène Figuet, je ne pourrais jamais l'entraîner parce qu'elle réfléchit trop. Je comptais mes coups de bras, je voulais la performance. Et donc, Philippe correspond à certains tempéraments et ce n'est pas adapté à tout le monde.
Bon, sous-entendu, vous écoutiez pas assez.
Non, j'avais besoin de comprendre pourquoi je nageais, pourquoi il fallait faire ça. Moi, j'ai besoin de comprendre. Et une fois que je comprends, d'ailleurs, en tant que kiné, je reste persuadée que quand on explique à la personne comment elle s'est fait mal et ce qu'il faut faire pour qu'elle guérisse, elle comprend.
Et ne plus faire.
Et donc, elle est actrice de son bien-être et de son soin et ça va mieux. Et Philippe, il fallait m'expliquer et lui avait besoin qu'on écoute et pas forcément expliquer pourquoi il fallait faire ça.
Bon, ma question était un petit peu taquine, bien évidemment. On va suivre les performances de nos nageurs et de nos nageuses en espérant que voilà, nos nageuses se montrent autant que nos nageurs et on espère qu'à Los Angeles, d'ici là, il y a encore des championnats du monde dans 2 ans, je crois.
Oui, c'est ça, tous les 2 ans, il y a des championnats d'Europe l'année prochaine et après, il y a surtout des Coupes du Monde. Ils vont pouvoir...
Des meetings et effectivement, où sont les championnats du monde dans 2 ans?
Ah, j'ai pas suivi.
Bon,
on
suivra, mais effectivement, ils seront l'année juste avant les Jeux, donc ceux-là, ils seront encore
très importants.
Très, très importants.
Ouais, très importants.
Eh bien, on suivra ça avec beaucoup d'intention et on se retrouve tous après une page de pub.
RRB, la pub.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud,
agir pour l'avenir.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84. RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h30 et c'est l'heure de retrouver Olivier Dedain pour la suite de votre semaine formidable.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
On se retrouve dans une semaine formidable et on va donc maintenant attaquer les brèves de cette semaine et on va commencer par du cyclisme avec la belle victoire de Pauline Ferrand-Prévot dans le Tour de France féminin. Grégory Sirac, vous avez suivi un petit peu les performances de notre Pauline nationale.
On peut presque dire qu'elle a fini le jeu, hein, si on reprend l'expression, puisque, excusez du peu, elle est championne du monde de VTT, championne du monde sur route. Elle a gagné les Jeux Olympiques en VTT, elle a gagné Paris-Roubaix et maintenant elle gagne le Tour de France.
Attention, si on énumère son palmarès, on n'aura pas assez de l'émission.
Mais donc on peut dire qu'elle a tout gagné. En plus, elle finit en jaune sur le Tour, donc c'est toujours un symbole sur le Tour de France. Et maintenant, il va falloir trouver la motivation de revenir et d'avoir de nouveaux challenges, peut-être battre des records, mais sinon...
Alors, elle s'était donné 4 ans après les Jeux pour réussir à gagner le Tour de France. Pouf, c'est fait dès la première année. Est-ce qu'elle peut en gagner d'autres, Solène ?
Bien sûr, elle va se trouver des nouveaux challenges. Et puis, quand on voit le sourire et le bonheur sur ses victoires, elle a envie.
Elle a envie. Alors, je ne sais pas si c'est un bémol, mais son âge peut être un frein. En tous les cas, elle a quand même 33 ans. Donc, elle est aussi en concurrence avec des jeunes coureuses qui ont presque, pour certaines, 10 ans de moins qu'elle. Donc ça peut être effectivement un des freins. Mais en tout cas, elle a effectivement gagné l'avant-dernière étape pour s'adjuger le maillot jaune. Et puis, dans la dernière étape, elle a été voir son directeur sportif en lui disant « Je me sens bien, peut-être que gagner en jaune, ça peut être sympa. » Et donc elle a planté tout le monde dans la dernière montée.
C'est vraiment un symbole sur le Tour de France. Hein. Le maillot jaune, c'est celui que tout le monde veut avoir. Et finir en jaune sur la photo finish de la dernière étape, voilà. C'est toujours mieux quand même.
Toute seule, en solitaire, tranquillement.
Sur une étape de montagne.
Sur une étape de montagne, c'est ça. Les deux dernières étapes étaient dans les Alpes. Et donc l'arrivée à Châtel, les Portes du Soleil. Je pense que ça restera un lieu un peu spécial pour elle, comme les champs sont un peu spéciaux pour les coureurs qui gagnent sur les champs.
C'est sûr, quand elle y retournera, elle y pensera à chaque fois.
Donc, puis elle a dû s'entraîner un petit peu en VTT dans ces zones-là aussi. Donc forcément, ça restera quelque chose d'assez incroyable. Vous avez dit, elle a terminé le jeu, hein, elle a fini le game, comme disent les jeunes. Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant ?
Peut-être, c'est ce que je disais, aller chercher des records. Alors moi, je n'ai pas connu, mais il y a Jeannie Longo qui a gagné 3 tours. Donc elle peut essayer d'en gagner 4
effectivement.
Pour rentrer dans la légende mais...
Elle a gagné 36 ans après Jeannie Longo. Une Française s'impose de nouveau sur le Tour, sachant qu'il n'y a pas eu d'épreuve pendant un certain nombre d'années, mais en tout cas voilà, il fallait quelqu'un qui succède à Jeannie Longo. C'est fait, ça nous ramenait un petit peu loin sinon. En tout cas voilà, qu'est-ce qu'une athlète peut se dire sur Solène Figuez, vous qui avez été athlète de haut niveau après avoir justement terminé le jeu? Comment on retrouve des objectifs? Comment on se refixe des objectifs? Qu'est-ce qu'on se dit? L'objectif c'était le Tour de France, je m'étais donné 4 ans, je le fais en 1.
C'est ça, c'est refaire des Tours de France, faire des récidives, de gagner plusieurs fois les championnats du monde. Après, ça va être aussi évolution avec le matériel. Alors nous, en natation, on a la chance parce qu'on peut changer de nage, on peut faire des courses plus ou moins longues, donc on peut évoluer. Puis il y a aussi les relais qui sont différents, donc il y a un peu plus de diversité. Après, quand on voit une Jeannie Longo, ou même quand tu es... médaillé olympique, tu as envie quand même de regoûter et de refaire les Jeux olympiques et de gagner à nouveau. Donc ça va être sa motivation, je pense, c'est de regagner.
D'alterner entre la piste et la route, la route et les pistes de VTT, c'est ça que vous nous dites ?
Ouais.
Ça peut être un jeu ? Bon, on va suivre ça, on va voir si effectivement elle alterne et elle reprend son VTT pour les Jeux de Los Angeles. On va parler d'athlétisme maintenant avec les championnats de France qui ont eu lieu ce week-end à Talence. Et j'ai retenu une info, c'est Renaud Lavillény, champion de France pour la 11e fois, 5 ans après son dernier titre,
c'est
à 38 ans, devant Thibaut Collet, et du coup qualifié pour les championnats du monde qui auront lieu à Tokyo du 13 au 21 septembre. Incroyable cette longévité de Renaud Lavillény.
Les grands athlètes ne meurent jamais, puisqu'on aurait pu l'avoir oublié, justement, vu que ça fait 5 ans qu'il a... Pas qu'il a rien fait, mais qu'il n'a pas été champion. Sauf erreur de ma part, il n'était pas aux derniers Jeux Olympiques à Paris.
Non.
Alors que c'est là que ça l'avait fait connaître. Donc,
il n'était pas qualifié.
Donc c'est ça. Donc il a eu une grosse période de vide et maintenant il revient au plus haut. Donc,
il fait une très très belle saison. Hein. C'est la troisième fois qu'il fait les minima pour les mondiaux de septembre à Tokyo. Donc,
C'est bien. Ça prouve aux jeunes aussi qui sont la relève qu'il y en a encore devant et qu'il faut aller les chercher et se donner à fond.
Alors en revanche, on espère que le DTN et la Fédération Française de l'Athlétisme le sélectionneront, puisqu'il y avait aussi des championnats d'Europe cette année, il avait fait les minima, il n'a pas été sélectionné. Donc j'espère que pour lui, et pour terminer en beauté, parce que je pense qu'il n'en fera plus beaucoup d'autres après, qu'il sera sélectionné pour ces championnats du monde, parce qu'il a quand même une carrière qui fait qu'il le mérite. Et même s'il n'est plus là pour concurrencer Duplantis et son record, c'est quand même un monsieur de la perche. On arrive à la fin de cette émission, Solène et Grégory. Je vais vous demander vos coups de cœur. Solène, on va commencer par vous. C'est pas souvent qu'on a des invités femmes. Alors, et puis je sais que Grégory avait voulu vous piquer votre coup de cœur, donc on va commencer par vous.
Ah, mais non, je sais que Grégory est à fond derrière Maxime, donc moi je vais dire à fond derrière Léon. Et bah, évidemment, c'est les nageurs, mes coups de cœur.
Donc voilà, un coup de cœur sur la natation.
Bah, je rejoins le coup de cœur. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui représente la Calédonie au plus haut niveau et qui donne une image positive de notre île. Donc ça, je rejoins sur le coup de cœur. Mais sinon, s'il fallait trouver autre chose, sur la Vilainie dont on vient de parler. C'est beau à cet âge-là d'être capable de réitérer des performances qu'il a fait plus jeune et de prouver qu'il est toujours là, quoi.
On pourrait compléter sur Renaud Lavillény en disant qu'il a tenté 5,92 et qu'il échoue de très 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 peu, qu'il n'est pas loin de repasser 5,92, encore une fois à 38 ans, et
c'est,
donc, c'est quand même une belle performance. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné sur cette émission et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.